إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقرأ كتاب أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبحمد الله عز وجل ما زلنا في باب المشتهرين بالتفسير من الصحابة، وذكرنا ترجمات لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والآن إن شاء الله تعالى سنذكر ترجمة عبد الله بن عباس. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله جل وعلا للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، أو فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: كذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمدك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. Donc, nous poursuivons, inshallah ta'ala, notre étude au sujet de يعني, les fondements ou des fondements du tafsir de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et nous sommes arrivés au chapitre concernant les sahaba, les compagnons qui sont connus et qui sont notoires dans la science du tafsir, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on avait cité donc la fois dernière la biographie résumée de deux compagnons illustres qui sont Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Et donc on va lire aujourd'hui la biographie concise également du noble compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est le fils de l'oncle paternel du messager d'Allah. C'est le fils de l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, c'est donc son cousin. D'accord? Donc c'est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est né 3 ans avant Al-Hijra. Donc il est né 3 ans avant Al-Hijra. Donc il était très jeune à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib? Na'am. Et il a donc tenu compagnie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il était, donc comme on a dit, son cousin, le fils de son oncle paternel, et sa tante du côté de sa mère, elle est la tante de Ibn Abbas, était une des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Maymouna. Donc on voit ici la proximité qu'il avait au niveau de la filiation parentale par rapport au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était donc son cousin Tayyib, et aussi le fait que sa tante était l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations importantes et célèbres en faveur d'Ibn Abbas, notamment le jour où le prophète il a pris dans ses bras, il a appuyé contre sa poitrine et il a dit « Oh Allah, enseigne-lui la sagesse ». Et dans une version, il a dit « Oh Allah, enseigne-lui le livre ». Vous voyez, yani, enseigne-lui le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. Également, le jour où Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a posé l'eau avec laquelle le prophète allait faire ses ablutions. Donc il a posé pour le prophète alayhi salat wa salam. Le prophète il a dit « Oh Allah, donne-lui la compréhension dans la religion ». Donc en raison de cette invocation bénie, il est donc devenu le grand savant de la communauté, surtout concernant la diffusion du tafsir ainsi que de la jurisprudence islamique. Du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a bien guidé, il lui a donné la réussite dans la motivation et dans le fait de veiller sur l'apprentissage, dans la demande de la science, ainsi que la patience dans sa réception et dans sa diffusion et sa propagation. Donc en vertu de tout cela, il a reçu et il a atteint une place très élevé auprès des compagnons eux-mêmes. Jusqu'à ce que le chef des croyants, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, donc à l'époque du califat de Omar, d'ailleurs, eh bien, le chef des croyants avait l'habitude de l'inviter, de l'appeler lors des assemblées. Et il avait même l'habitude de prendre son avis, sa parole ou son opinion dans tel ou tel sujet. Jusqu'à ce que Al-Muhajiroun, donc les Sahaba qui ont émigré de Mecca jusqu'à Médina, ils ont dit, dans le sens de leur parole, pourquoi n'inviterais-tu pas nos enfants comme tu invites Ibn Abbas? Et là, il leur a dit, celui-là, yani, cet enfant, Ibn Abbas, c'est un enfant qui est mature, hein? Fatal kuhul. C'est un enfant qui est d'une maturité particulière. Lahu lisanun sa'ul. Il a une langue fluide, c'est-à-dire qu'il s'exprime magnifiquement bien. Wa qalbun aqul. Et il a un cœur, yani, qui est d'une raison élevé, mature, raisonnable, sensé. Puis un jour, il les a appelés, il a appelé ces gens, Al-Muhajiroun, radiallahu anhum ajma'in, et il a fait entrer donc avec eux Ibn Abbas, afin de leur montrer ce que lui, il avait vu et entendu. Donc Omar a dit, à ce moment-là, il a posé la question aux Sahaba et il leur a dit au sujet de la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, dans la sourate An-Nasr, dans le sens rapproché de ces versets, il dit à Allah, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Car c'est lui le grand accueillant au repentir. Taïb. Donc certains parmi les Sahaba, ils ont dit, cela veut dire que Allah Jalla wa Ala nous a ordonné de le louer et de lui demander pardon lorsque on va nous donner, yani, lorsqu'on nous a donné la victoire. Et certains n'ont rien dit. Puis il dit Omar, en s'adressant à Ibn Abbas, radiallahu anhum, il lui dit, est-ce que toi aussi tu dis cela? Et Ibn Abbas de répondre, non. Il dit, que dis-tu donc? Il dit, ceci est le terme de vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla wa ala lui en a informé et lui a fait comprendre que sa vie arrivera ou touchera à sa fin lorsque viendra le secours d'Allah, ainsi que Al-Fath, c'est-à-dire la conquête de Mecca. Hein? Le secours d'Allah, la conquête de Mecca, ce sont des signes, yani, de la fin de ta vie, la fin de la vie sur terre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc Allah dit à la fin de la sourate, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Taïeb. Il dit, Omar, je ne sais que ce que tu sais. C'est-à-dire qu'il a approuvé complètement yani, le tafsir de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, malgré son jeune âge. Qala Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, la ni'ma turjuman al-Qur'an. La ni'ma turjuman al-Qur'an, Ibn Abbas. لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد أي ما كان نظيرا له هذا مع أن ابن عباس رضي الله عنهما عاش بعده 36 سنة فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم يجي ابن مسعود رضي الله عنه وصن سجي يجي quel bon turjuman, donc ici quel bon exégète du Coran en parlant de Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il dit s'il avait atteint notre âge ou s'il atteint notre âge, aucun d'entre nous ne serait comme lui. Hein? Et il faut savoir que Ibn Abbas, il a vécu 36 ans après Ibn Mas'ud par la suite. Donc il a vécu 36 ans après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum. Donc que penses-tu de ce qu'Ibn Abbas a pu acquérir comme savoir et comme connaissance hein, durant son existence? Imagine. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من أو أعلم من بقي بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنهما il a dit lorsqu'une personne lui a posé une question à propos d'un verset. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Ibn Umar? Il lui a dit, va voir Ibn Abbas et pose-lui ta question. Car il est le plus savant parmi ceux qui restent de ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ibn Umar, le fils de Umar, on lui a posé une question sur un verset. Il a dit, va voir Ibn Abbas car c'est le plus savant d'entre ceux qui restent hein, parmi les Sahaba sur ce qui a été descendu sur Allah, astaghfirullah, sur le prophète Muhammad alayhi salat wa salam. Wa qala Ata ma ra'aytu qat akrama min majlis ibn Abbas radiyallahu anhuma fiqhan wa a'zama khashya. إن أصحاب الفقه عندهم وأصحاب القرآن عندهم وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. Il dit Ata, نعم, donc l'un des élèves de Ibn Abbas رضي الله عنهم, donc Ata fait partie donc par conséquent des tabi'in, Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, il dit, je n'ai jamais vu des assises plus nobles que celles de Ibn Abbas en termes de jurisprudence et de crainte envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit, les gens de la jurisprudence s'asseyaient dans ses assises. Les gens du Coran s'asseyaient dans ses assises. Les gens des poèmes s'asseyaient dans ses assises. Donc il faisait asseoir auprès de lui dans une vallée immense, il disait, subhanallah. Wa qala kadhalik Abu Wa'il wa kana min talamidh ابن عباس رضي الله عنهما وهو شقيق ابن سلمة. قال: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور وجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، أو كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. الله أكبر. Il dit à Abu Wa'il, qui fait partie également des élèves d'Ibn Abbas, hein, qui s'appelle Shaqiq ibn Salama, rahimahullah ta'ala, donc parmi les tabi'in aussi, il dit: Ibn Abbas nous a fait un sermon alors qu'on était donc durant les périodes du pèlerinage, c'est-à-dire que Uthman à l'époque, radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, taïb, il lui a donc mandaté pour qu'il aille faire le pèlerinage avec les musulmans. Donc Ibn Abbas, il a dit, il a commencé à réciter la sourate An-Nur, la lumière. Et il a commencé à l'expliquer, à faire le tafsir de la sourate. Et donc il dit à Abu Wa'il, j'ai commencé à dire ce que j'ai, à décrire ce que j'ai vu. D'accord ? Et il dit, je n'ai jamais entendu la parole de quelqu'un comme lui. Puis il dit, si les Perses, les Byzantins et les Turcs pouvaient entendre sa parole, ils auraient embrassé l'islam. Allahu Akbar. Il dit, si les Perses, les Byzantins, les Turcs pouvaient entendre la parole ou le discours, le tafsir de la sourate An-Nur d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, ils auraient embrassé l'islam. طيب ثم قال: والله عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة ثم خرج منها إلى طائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة رضي الله عنهما. Donc عثمان lors de son califat, il a donc mandaté, comme on a dit, pour qu'il aille au pèlerinage, et cela donc l'année 35 de l'Hégire. Et également lors du califat de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Ali l'a mandaté également à la ville de Bassora en Irak, et lorsque Ali s'est fait assassiner, Ibn Abbas est parti vers le Hijaz, est retourné vers le Hijaz, et il est resté à Mecca, à la Mecque. Puis il est parti de Mecca et il s'est rendu à Taif, et il est décédé à Taif. Donc Ibn Abbas, radiallahu anhuma, est mort à Taif l'année 68 de l'Hégire, et il avait 71 ans. Il avait 71 ans. طيب رضي الله عنهما. ثم قال إذن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في ترجمة ابن عباس، قال: خطب مرة الناس من صلاة العصر إلى الغروب واستمر حتى حان وقت العشاء، فقام رجل فقال: الصلاة يا ابن عباس. فقال: أتعلمني السنة؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا يدل على قدرته وقوته، لا سيما إذا كان العصر في أيام الصيف سيكون طويلا ومع ذلك استمر. يجي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى une anecdote étonnante de la biographie d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit qu'un jour il a fait un discours, il a fait une khutba, un discours, qui a commencé à la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Et il a continué ainsi jusqu'à ce que vienne la prière de l'Isha. De l'Asr, il a commencé son discours et il a parlé jusqu'à ce que vienne l'heure de l'Isha. Et qu'un homme s'est levé et a dit la prière, Ibn Abbas, yani la prière de l'Maghrib. Il y a l'heure de l'Isha qui va rentrer bientôt. On doit faire la prière de l'Maghrib. Et là, Ibn Abbas de lui dire, vas-tu m'apprendre la sunna? Vas-tu m'apprendre la sunna? Et il lui a dit, le prophète, il a certes réuni entre Dhuhr et l'Asr et entre le Maghrib et l'Isha à Médine sans raison causée par la peur ou la guerre ou la pluie. D'accord? Ça veut dire que, bon, sans développer, mais ça veut dire que tu as le droit de réunir soit Dhuhr avec l'Asr ou soit le Maghrib avec l'Isha pour une excuse, une difficulté, une gêne qui n'est pas celle de la peur ou celle de la pluie. Et cela nous montre, nous indique une chose ici par rapport au sujet dont on parle, ça nous montre la force et la puissance d'Ibn Abbas au niveau de sa science, hein, et aussi de sa compétence physique et son énergie également, surtout lorsqu'on sait que durant la saison de l'été, la période qu'il y a entre l'Asr et l'Isha, elle est très longue. Hein? Et malgré la longueur qu'il y a entre l'Asr et l'Isha, eh bien Ibn Abbas il a fait un discours, il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que vienne l'heure de l'Isha. Allahu Akbar. ثم قال الشيخ رحمه الله المشتهرون بالتفسير من التابعين قال اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون منهم ألف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. On passe maintenant aux gens notoires dans le tafsir parmi les tabi'in cette fois. Dans la génération des At-Tabi'in. Donc après qu'on ait parlé de la génération des Sahaba, on rentre maintenant dans la génération des Tabi'in. Il dit, ils sont très nombreux. Parmi eux, il y a tout d'abord les gens de Mecca. Les gens de la Mecque. Et ce sont les disciples de Ibn Abbas. Comme Mujahid, Ikrima, ainsi que Atta ibn Abi Rabah. D'accord? Donc ces trois-là étaient à Mecca. On a également parmi les notoires du tafsir, les gens de Médina, Al-Médina, parmi les disciples de Ubay ibn Ka'b, tels que Zayd ibn Aslam, ou Abil Aliya, ou Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Puis on a également les gens de Al-Kufa, en Irak, tels que les disciples de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, tels que Qatada, ou Al-Qama, ou Sha'bi. Donc on va ici citer la biographie brève de deux de tous ces gens-là. On va citer celle de Mujahid, qui est l'un des élèves de qui?
Hein?
Non, Ibn Abbas. De Ibn Abbas, Mujahid, et de Qatada, qui est l'élève de? Non. Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il était à Al-Kufa, en Irak. Et Mujahid, il était à Mecca. D'accord? Donc l'un des élèves d'Ibn Abbas. D'accord. إذن مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. Donc on va commencer par la biographie concise de Mujahid, un des élèves de
Ibn Mas'ud.
Là, Ibn Abbas. Mujahid Ibn Abbas, d'accord? Il dit donc Mujahid Ibn Jabr al-Makki. D'accord? Moula Sa'ib Ibn Abi Sa'ib al-Makhzoumi. Il est né l'année 21 de l'Hégire. Mujahid, il est né l'année 21 de l'Hégire. D'accord? Donc c'est un tabi'i. Hein? On rappelle que le tabi'i est celui qui a rencontré les sahaba. En étant croyant, qui est mort sur l'islam. Et donc ce Mujahid, bien sûr, il a pris le tafsir du Coran. De qui? De son professeur, de son enseignant, Ibn Abbas. Ibn Ishaq a rapporté de lui une anecdote magnifique. Le fait que Mujahid a dit: j'ai exposé le Mus'haf, c'est-à-dire le Coran, à Ibn Abbas 3 fois. De Al-Fatiha jusqu'à Surat An-Nas. D'accord? Ça veut dire qu'il a lu et il a exposé le Coran 3 fois. De Surat Al-Fatiha jusqu'à Surat An-Nas. Et je l'ai arrêté à chaque verset. À chaque verset, il s'est arrêté. C'est-à-dire qu'en disant, il disait par exemple Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il s'est arrêté et il demandait à Ibn Abbas le tafsir. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il s'est arrêté et il demandait à Ibn Abbas le tafsir. Et ainsi de suite. À chaque verset. Allah Akbar. Il dit Sufyan al-Thawri, rahimahullah wa ta'ala, qui fait partie des atba' al-tabi'in, donc la troisième génération après, donc les tabi'in, il a dit: si il te vient le tafsir selon Mujahid, il te suffira. Si tu as la possibilité de lire le tafsir de Mujahid, il te suffira. Et donc, on utilisait ce tafsir, l'imam Shafi'i et Al-Bukhari, hein, qui s'est servi de nombreuses fois de ce tafsir, celui de Mujahid, dans son Sahih, Sahih Al-Bukhari. Il dit l'imam Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, que la communauté, elle est unanime sur le fait que Mujahid, c'est un imam dans le tafsir. Et que Mujahid, son tafsir, on peut s'appuyer dessus, et c'est une hujja, c'est un argument. Et il est décédé à Mecca. Il est mort à Mecca, alors qu'il était prosterné. Allah. Il est mort en prosternation l'année 104 de l'Hégire. L'année 104 de l'Hégire, et il avait 83 ans. Il avait 83 ans. Rahimahullahu ta'ala. ثم قال قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ولد أكمة أي أعمى سنة 61 وجد في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال في نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل. وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، وتوفي في واسط سنة 1700 عن 56 سنة. يوم فيني avec Qatada qui est l'un des élèves de Qatada.
Yes.
نعم ابن مسعود. Il s'appelle Qatada ibn Di'ama. Ibn Di'ama as-Sadusi al-Basri. Il est né aveugle. Allah Akbar. Il est né en étant aveugle. L'année 61 de l'Hégire. D'accord ? 61 de l'Hégire. Donc il est né bien après Mujahid. Mujahid il est né l'année 21. Lui il est né à l'année 61 de l'Hégire. Ça y est ? Donc 40 ans après Mujahid. Et donc bien sûr il a fait preuve de sérieux dans la recherche de la science. Il avait une mémoire très puissante. Jusqu'à ce qu'il ait dit même à son propos, il a dit, je n'ai jamais dit une seule fois à un savant du hadith, répète. Je n'ai jamais dit une seule fois à un savant du hadith, répète. Car il suffisait d'entendre une seule fois le hadith pour l'avoir mémorisé. Puis il dit, mes deux oreilles n'ont jamais entendu quelque chose sans que mon cœur ne les préserve, sans que mon cœur ne les mémorise. Allahu Akbar. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a fait des éloges très longues à son encontre. Tayyib. Et donc il a propagé sa science, sa compréhension, sa jurisprudence, sa connaissance de la divergence en tafsir. Tayyib. En décrivant également sa mémoire, toute sa science. Et il a dit, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, rares sont ceux qui sont meilleurs que lui. Rares sont ceux qui sont meilleurs que lui. Quant à ceux qui sont comme lui, peut-être, je ne sais pas, il dit. Je ne sais pas. Et même des gens qui seraient identiques au même niveau que Qatada à son époque, et même Ahmed il dit, je ne sais pas, peut-être. Mais meilleur que lui, non, il n'y en a pas. Il dit, c'était parmi les gens de Bassora le plus fort en termes de mémoire. Il n'a jamais entendu quelque chose sans l'avoir mémorisé. Et il est mort au milieu de l'année 117 de l'Hégire. Naam, donc quelques années après la mort de Mujahid. Et il avait lui 56 ans. Donc il est mort jeune. Il avait 56 ans. Alors que Mujahid, il avait combien ?
51
ans. Non. 83 ans. Naam. Alhamdulillah. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on continuera samedi prochain, Inch'Allah, bi'idhnillah. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.